Le grand entretien. François Bunel.
Il est l'un des premiers astronautes français, un pionnier de l'espace, le premier spationaute. Né en Afrique, à Douala, au Cameroun, c'était en 1946. Mais au fait, comment devient-on cosmonaute ? Études scientifiques, évidemment, au lycée militaire d'Autun, puis au Prytanée de la Flèche, MATSPÉ, l'école de l'air. Le voici, pilote de chasse et bientôt commandant d'escadrille. À l'époque, les années 80 du XXe siècle, la coopération est encore franco-russe, ou plutôt franco-soviétique. Cap sur la Cité des Étoiles, où il est formé pour le premier vol spatial franco-soviétique, mais c'est de l'autre côté du rideau de fer, aux États-Unis, qu'il participera à l'aventure spatiale. Il rejoint la NASA et prendra part au vol de la navette Discovery, c'était en 1985. Aujourd'hui, la conquête spatiale marque le pas. Mais lui continue d'en défendre l'idée. Des livres, des conférences dans le monde entier, l'action humanitaire aussi, et notamment auprès des jeunes. Il a publié, il y a quelques mois, un plaidoyer pour la conquête spatiale dans lequel il pose quelques bonnes questions. Celle-ci, par exemple. Que sont les cosmonautes devenus? Pourquoi ne sommes-nous pas sur la Lune? Et puis, quel rêve pour nos enfants? Drôle de paradoxe, il y a quelques jours, le monde entier saluait un exploit. Un homme franchissait le mur du son pour la première fois en se laissant chuter depuis 39 000 mètres d'altitude. Et oui, aujourd'hui c'est ainsi, on ne monte plus vers les étoiles, on en tombe.
Le grand entretien sur France Inter.
Patrick Baudry.
François Bunel. Bonjour Patrick Baudry.
Bonjour François Bunel.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On a envie de savoir effectivement comment on devient cosmonaute, à quoi ça sert aujourd'hui encore. Et puis d'abord évidemment d'avoir votre réaction à cet exploit qui a secoué la planète, scotché des millions de gens devant leur téléviseur. Ça faisait longtemps que pour parler d'un exploit scientifique, c'était pas arrivé. Qu'avez-vous éprouvé, Patrick Baudry, lorsque vous avez vu, il y a quelques jours, donc, cet homme, Félix Baumgartner, franchir le mur du son en chute libre depuis près de 40 km d'altitude?
Bien, j'ai éprouvé beaucoup d'émotions, d'une part, et en même temps, cela m'a rappelé des souvenirs, parce que l'image que l'on découvre lorsque le sas de sa capsule s'ouvre et qu'on voit apparaître la Terre, le bleu de l'atmosphère et un bout d'espace, c'est un petit peu ce qu'on voit quand on est là-haut. Ça y ressemble. Et donc, c'était vraiment très, très prenant et très intéressant parce qu'on voyait bien qu'un homme qui était immobile, pendu au bout de son ballon, dominait en quelque sorte la Terre. Et j'ai beaucoup apprécié la réaction et la phrase qu'a dite Baumgartner à ce moment-là. Il a dit « on réalise combien nous sommes petits ». Et ça, c'est quelque chose que l'on perçoit, que l'on ressent très très fort quand on est dans l'espace et qu'on a ce regard sur la Terre. On perçoit instantanément qu'on est non pas petit, mais on est minuscule, on est même inexistant. Et on est confronté à ce paradoxe de ce que on est persuadé de sa propre importance, comme tout être humain. On voit le ciel à travers nos yeux et c'est notre cerveau qui forme les images autour de nous. Donc on est le centre du monde, on est le centre de l'univers, on est le centre de tous ceux qui nous entourent. Et donc on est important, en quelque sorte, on existe. Et en même temps, quand vous êtes dans l'espace, vous avez l'évidence de ce que vous n'êtes rien. Donc vous avez ce paradoxe très fort entre le sentiment, je dirais, animal, bestial, de votre importance et l'évidence de votre non-importance. Et il l'a perçu un tout petit peu quand même.
Il l'a dit, effectivement, comme
il
ça.
A dit, oui.
Est-ce que vous diriez, vous, Patrick Baudry, qu'il a fallu que vous viviez cette expérience qui est unique? Il y a eu à peine 500 personnes depuis maintenant à peu près 50 ans pour aller dans l'espace. A-t-il fallu que vous viviez cette expérience pour prendre vraiment conscience de ce que, généralement, on dit, mais toujours un petit peu sans s'en rendre compte? Oui, on est minuscule.
Oui, il a réellement fallu que j'aille là-haut pour en prendre conscience complètement. Car il y a une différence entre la réalité et ce que l'on conçoit par la pensée. Je crois que nous sommes des animaux qui avons évolué, qui nous sommes développés sur la planète Terre, donc une espèce très particulière. Donc on a un côté animal, simple d'être existant, et en même temps, on a accès à une pensée. Alors, on peut en discuter, là encore. Mais c'est vrai qu'on a accès à la pensée, et ce qui nous différencie de tous les autres, avant toute chose, c'est notre capacité à imaginer, notre curiosité. Einstein nous disait très bien, il disait ce qu'il y a de plus important chez l'homme, c'est pas l'intelligence ni le savoir, c'est l'imagination. Et c'est ce qui fait toute notre différence avec toutes les autres espèces vivant à la surface de la Terre. Et donc, pour revenir à votre question, il est vrai que lorsqu'on est là-haut, même si on y a pensé avant, bien sûr on y a pensé avant, on découvre quelque chose, pas seulement le spectacle, mais on découvre une émotion, quelque chose qui nous frappe, qui nous envahit, qui est notre non-existence. L'univers est infini par définition, on le sait tous. Nous, on voyage tous à bord de notre vaisseau spatial, hein, la Terre, mais on ne se rend pas compte que cet univers est quelque chose qui nous dépasse infiniment.
Quelles sont les pensées qui vous ont traversé, vous, il y a maintenant 27 ans, en 1985, lorsque vous avez fait ce vol de Discovery, donc avec les Américains? Je rappelle que ce n'est pas seulement un vol de quelques heures, hein. Vous êtes resté combien de temps dans l'espace?
Un peu moins de 8 jours. Qui était le temps que pouvait rester la navette dans l'espace à cette époque. C'était les premiers vols de la navette.
Qu'est-ce qu'on ressent?
Ben on ressent d'abord une joie immense, si vous voulez. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi vous êtes devenu cosmonaute, en quelque sorte. Je crois qu'il faut être habité par un rêve pour remplir sa vie. On a tous un rêve, vous l'avez, et lorsqu'on ne l'a pas, il faut le découvrir. Autrement, notre vie nous paraît complètement inutile et fade. Donc, ce rêve, pour moi, il a été de voler. Et je l'ai eu à partir de 4 ans. Donc j'ai eu énormément de chance.
Bon, mais de voler, d'être pilote.
D'être pilote, d'être, oui, de voler dans l'air.
Spationaute.
De voler dans l'air. Mais quand on veut voler, quand on rêve de voler, bien c'est, si on peut voler plus haut, si on peut voler plus loin, c'est un accomplissement. Vous voyez, le rêve n'a pas de fin. C'est ce qui est beau dans nos rêves, c'est qu'ils n'ont pas de fin. Quand on nous dit « vous avez accompli votre rêve », une fois qu'un rêve est accompli, ce n'est plus un rêve. Il est devenu une réalité. Ce qui est important, c'est le rêve suivant. Et lorsqu'on a cette capacité de rêver, on l'a toujours. Donc on a toujours un rêve que l'on poursuit. Ou alors c'est triste. Et donc quand vous rêvez de voler, ben c'est un rêve que vous poursuivez toute votre vie. Moi j'ai travaillé en classe pour devenir pilote sans problème, au moins de ce côté-là. Ensuite quand j'étais pilote, j'ai toujours travaillé pour devenir pilote d'essai, etc. Bon. Et finalement j'ai toujours poursuivi ce rêve. Et quand la France a négocié ce premier vol pour un Français en 79, quand on était sélectionné avec Jean-Luc Chrétien.
À l'époque c'était pour l'Union soviétique. Hein,
pour les soviétiques. Ouais. On est parti là-bas, à la Cité des Étoiles, avec Jean-Loup. C'est comme si on entrait en religion. Vous arrivez à la Cité des Étoiles, vous voyez des gens dont vous rêviez avant, quoi. Alexis Leonov, enfin vraiment des gens fantastiques qui eux, ont ouvert les portes de l'espace. Et vous les rencontrez, vous travaillez avec eux, ce qui vous frappe, c'est leur humilité. On a beaucoup appris en Union soviétique. Bon, Jean-Loup a volé en 82, c'était le premier vol d'un Français avec les Soviétiques. Et immédiatement après, Mitterrand et Reagan ont négocié ce premier vol franco-américain, donc, et auquel j'ai eu le privilège de participer. Et c'était encore une autre aventure. Les Américains, c'est très différent des Soviétiques, bien sûr.
Alors, on va reparler de tout ça, Patrick Baudry, mais je voudrais revenir juste à ce rêve qui, pour beaucoup de scientifiques, semblait être un rêve, c'est-à-dire franchir le mur du son. Vous, qui avez été un peu plus haut que 40 km, mais qui avez, vous nous l'avez dit, ressenti cette émotion, la même que Bob Gartner, voir et se savoir tout petit, est-ce que vous l'aviez, le rêve de vous laisser tomber en chute libre? Est-ce que ça fait partie des rêves qu'un pilote, qu'un colonel même, puisque c'est votre grade, peut avoir?
Oui, parce que, si vous voulez, l'espace, ce qu'on appelle voler dans l'espace, cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire qu'on est propulsé à une vitesse suffisante à partir de laquelle on tombe. Dès qu'on arrête d'être propulsé, on tombe, parce qu'on est attiré par la gravitation terrestre. Donc imaginez que vous soyez un projectile à proximité de la Terre, qu'il n'y ait pas d'air pour vous ralentir, donc vous gardez cette vitesse que vous avez acquise, par une fusée en ce qui nous concerne, et ensuite vous tombez. Mais comme la Terre est ronde, et que votre vitesse est très grande, votre trajectoire fait que vous tombez, vous ratez toujours la Terre. Et donc vous continuez à tomber. Donc ce qu'on appelle l'impesanteur, ce n'est ni plus ni moins que le fait que l'on tombe, mais sans fin. vous pouvez tomber dans un ascenseur dont le câble se rompt, et là vous aurez une seconde, peut-être une seconde et demie de chute parfaite. Malheureusement, après, la décélération n'est pas forcément agréable. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Donc, Félix Baumgartner, il a eu, mais il n'a pas eu beaucoup de temps d'impesanteur. Il a dû avoir une seconde ou deux, juste avant qu'il prenne assez de vitesse pour, malgré la faible densité de l'air, avoir des appuis, avoir une certaine vitesse. Et là, ça s'équilibre. Et finalement, vous pesez à nouveau et vous descendez à une vitesse uniforme.
1341,9 km/h.
Voilà, ça
c'est incroyable. C'est pendant 4 minutes. Et le corps résiste.
Le corps résiste parce que la vitesse n'a rien à voir. On n'a pas de perception de la vitesse.
Ouais.
La vitesse, c'est un état. Ce que l'on perçoit, ce sont les accélérations. On a dans le corps humain, il y a des capteurs qui sont les otolithes dans l'oreille interne et d'autres, mais enfin ceux-ci notamment, qui nous font percevoir l'accélération. Donc nous, êtres humains, ce que l'on perçoit, c'est le changement de vitesse, l'accélération ou la décélération. Mais une fois que l'accélération ou la décélération s'arrête, on a une vitesse, donc. Mais cette vitesse, on ne l'aperçoit pas.
Est-ce que ça explique, c'est ça qui explique Patrick Baudry qui dit qu'il n'a pas senti le bang supersonique lorsqu'il a passé le mur du son?
Non, parce que quand vous passez le mur du son, de toute façon, le son est derrière vous. Donc vous ne pouvez plus le percevoir.
Donc on ne peut pas l'entendre.
Donc à chaque fois que vous franchissez le mur du son, vous n'avez pas le bang. Ce qui cause le bang au sol, c'est la différence de pression de l'onde lorsqu'elle arrive au sol. Et elle est proportionnelle à la masse de l'objet qui franchit le mur du son. Donc, un corps avec le scaphandre, disons, 100 kilos, et à 12 kilomètres d'altitude, arrive au sol, même une fourmi ne peut pas être dérangée par le bang, le bang sonore du mur du son de Félix Baumgartner. Ouais.
Vous en parlez de cet exploit, Patrick Baudry, comme si, en réalité, vous auriez bien aimé l'accomplir vous-même.
Ah oui, c'était un de mes rêves. Vous voyez, ce sont les rêves qu'on n'accomplit pas. En 88, donc 3 ans après mon vol avec les Américains, on avait formé une équipe au sein de la DGA et avec quelques personnes extérieures. La DGA, c'est la Délégation Générale de l'Armement. Vous savez, c'est là qu'on conçoit les nouveaux appareils, etc. C'est la direction qui reçoit des budgets des citoyens français pour travailler sur des engins qui vont nous permettre d'évoluer dans les transports ou dans notre force de frappe, etc. Donc vous avez une mine d'intelligence à la DGA extraordinaire. Et ce sont des gens qu'il est facile de motiver. On pensait les motiver, moi je pensais les motiver, avec ce projet qu'on appelait S-38, car il s'agissait de sauter depuis 38 000 mètres, et donc de passer le mur du son, comme l'a fait Félix Baumgartner avant-hier. Et ce projet, malheureusement, s'est arrêté, parce que Chevènement, qui était le ministre de la Défense à l'époque, n'a pas apposé sa signature au moment de la décision de lancer complètement le projet. Et le projet s'est arrêté là. Et j'en veux un peu à Louis Gallois, qui était son DIRCAB à l'époque. Mais ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'imagination. Vous voyez,
si l'imagination était au pouvoir, Patrick Baudry, on le saurait.
On le saurait.
Je vais vous poser une question qui vous paraîtra naïve, mais que beaucoup d'auditeurs se posent. À quoi ça sert, scientifiquement, cet exploit?
Scientifiquement, je vous répondrai, si j'avais le choix entre oui et non, comme réponse, je vous répondrai à rien. Pourquoi ? Parce que simplement, Félix Baumgartner a réuni une équipe, je pense fabuleuse, c'est à eux que je pense, c'est vraiment des... parce qu'il a fallu réussir, il a fallu que tout marche au bon moment, et ça c'est quelque chose de très difficile à réussir. Donc humainement, c'est un exploit. Scientifiquement, il n'y a rien de particulier. On utilise des technologies existantes, on développe un scaphandre à la base de scaphandres aujourd'hui qui sont quand même très performants. Le problème du scaphandre, si vous voulez, c'est que lorsque vous êtes dans une atmosphère raréfiée, une faible pression, c'est une armure. C'est-à-dire qu'il devient complètement rigide. Parce que la pression à l'intérieur est très différente de la pression à l'extérieur. Vous êtes presque dans le vide, si vous voulez. Et là, il devient très, très rigide. Et le problème d'un scaphandre, c'est de donner à l'homme qui est à l'intérieur une mobilité compatible avec le travail qu'il va effectuer. Et le scaphandre de Félix Baumgartner, je regardais avant-hier, est vraiment très performant parce qu'on voyait bien qu'il arrivait à se mouvoir, à maîtriser ses bras, la place de ses bras, etc. Donc c'est un superbe scaphandre qui a fonctionné sans aucune défaillance. Donc là, technologiquement, c'est un bel aboutissement, pas une révolution. Scientifiquement, bon, il devait être équipé de capteurs et je suis sûr que les médecins seront très intéressés par l'enregistrement de différents paramètres, sanguins et autres, pendant sa chute. Mais il n'y a rien de fondamental sur le plan scientifique. S'il faut comprendre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. ce qui nous différencie de toutes les autres espèces, c'est notre curiosité, notre capacité à vouloir connaître ce qu'on ne connaît pas encore, finalement. Et le moteur de tout cela, c'est nos rêves, encore une fois. C'est-à-dire nos rêves, c'est-à-dire nos passions.
Donc ça a une valeur poétique.
Poétique, et c'est un moteur de rêve. Et c'est le rêve qui nous fait avancer. Donc tous les ingénieurs, tous les scientifiques qui travaillent, ils le font parce qu'ils vont vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore.
Alors si vous parlez du rêve, Patrick Baudry, je voudrais revenir sur ce point quand même. Vous faites partie d'une époque et d'une idée qui supposait que l'on s'élève vers les étoiles. On quittait la Terre et puis on allait dans l'espace. Et aujourd'hui, cet exploit formidable, poétique, tout ce que vous voudrez, cet exploit de Félix Baumgartner consacre quand même l'idée inverse. C'est-à-dire qu'on ne monte plus vers les étoiles, on en tombe. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce retournement des idées ?
Je dis toujours aux gamins qui rêvent d'être astronautes, ou vous voyez, j'en dis toujours, ce métier, pour avoir une chance de le toucher du doigt, de l'embrasser, il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. Bon. Et il est vrai que moi, toute ma vie, j'ai rêvé, je vous le disais, de voler, donc d'aller plus haut et plus haut. Et là, finalement, il est monté pour descendre. Mais ce qui est fabuleux, c'est d'arriver à 39 000 mètres sur un escabeau, voyez, d'être immobile. Quand on est dans l'espace, on a une vitesse de, bon, autour de la Terre de 28-29 000 km/h, peu importe. Et donc, on n'est pas immobile par rapport à la Terre. Là, il était immobile. Donc, il y a toute cette ascension. Moi, ce qui me faisait autant rêver que le fait... Parce que finalement, descendre, ce n'est pas un exploit. C'est la gravité terrestre qui vous fait descendre.
Vous voulez dire que l'exploit, c'est de monter, de rester immobile, de se tenir immobile ?
L'exploit, c'est de monter d'abord sous un ballon, d'avoir une capsule où il y a une survie qui vous permet de fonctionner normalement, ensuite de l'ouvrir, comme dans l'espace, d'être devant un vide qui n'est pas total, mais enfin quand même une pression extrêmement faible, et d'être là sur ce marchepied au bord, et de regarder le sol et la Terre 39 km plus bas. Ça, c'est d'être immobile. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très, très chouette. Après, bon, vous tombez, vous pouvez que tomber. Hein, donc vous allez être en bas de toute façon. C'est un peu comme le ski. On admire toujours les skieurs qui descendent, mais ceux qui montent, moi, je les admire bien davantage.
On va faire ce que vous dites, Patrick Baudry, vous avez raison, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Avec un peu de musique sur France Inter, voici les Scopes, la nuit américaine.
L'intérieur sont creux.
Le grand entretien de François Bunel sur France Inter.
En compagnie aujourd'hui de Patrick Baudry. Je voudrais qu'on revienne, Patrick Baudry, à vos rêves, mais permettez-moi d'évoquer ce qui était peut-être un rêve brisé, qui l'a été pour quelques-uns en tout cas. Là, il y a quelques semaines, l'annonce de la mort de Neil Armstrong, l'homme qui, le 20 juillet 1969, a posé le pied sur la Lune. Comment l'avez-vous vécu ? C'était la fin d'une époque ?
Un petit peu la fin d'une époque, vous avez raison, mais moi j'aimais beaucoup et j'admirais intensément Neil Armstrong. J'ai eu la chance de le connaître assez bien. Et je me disais, il est mort et on n'est toujours pas retourné sur la Lune. Et je sais que lui aussi, ça le tourmentait pas, parce que c'est pas le genre, il maîtrisait ses passions.
Lui, non, enfin, mais enfin, son collègue Buzz Aldrin a raconté à plusieurs reprises de quelle manière ça l'avait tourmenté.
Oui,
d'y avoir
Buzz,
été, de ne pas
Buzz
y retourner.
A été très tourmenté, mais ce sont des caractères très différents. Neil et Buzz, c'est vraiment l'eau et le feu. Non. Mais Neil, lui, ça le préoccupait un peu. Il voyait bien qu'un jour ou l'autre, il disparaîtrait. Il voyait bien qu'on ne serait pas retourné sur la Lune. Et quelque part, en 69... Lorsque on a vu, à l'époque, j'étais gamin, j'étais élève pilote à l'école de l'air.
Enfin, vous avez 22 ans quand même.
Oui.
Vous racontez des officiers assez bonnes provenances, vous avez suivi ça.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que, encore avec beaucoup de naïveté, et moi je pensais que c'était le début, non pas d'une aventure, mais d'une
conquête.
D'une routine. Une conquête et une routine. Vous savez, on avance toujours de la même manière. Il y a une phase exploratoire, où il y a quelques fous, ce qu'on appelle des fous, qui découvrent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on renie les fous. C'est les plus importants dans notre société. C'est ceux qui nous font évoluer. Et donc, appelons-nous des fous qui vont explorer un territoire qu'on ne connaît pas encore, qui ouvre une porte qui n'a jamais été ouverte. Ça, c'est la phase exploratoire. Ensuite, il y a une deuxième phase, qui est la phase, proprement parlée, de conquête. C'est-à-dire, on apprivoise le milieu nouveau qu'on a découvert, etc. Et la troisième phase, alors ça, en français, elle est très, très péjorative, c'est ce qu'on appelle la colonisation. C'est-à-dire, on a appris à vivre dans cet endroit et maintenant on apprend à l'exploiter, c'est-à-dire à en tirer des ressources pour notre vie, notre évolution, etc. Donc là, en ce qui concerne la Lune, on s'est arrêté à la phase exploratoire. C'est assez surprenant finalement, alors qu'en fait, on aurait dû déjà l'apprivoiser. Aujourd'hui, il y a cette station internationale qui tourne autour de la Terre.
C'est vous avez des mots très très durs.
C'est pathétique.
Est-ce que vous savez,
c'est pathétique. On a déjà dépensé 180 milliards de dollars pour faire tourner cet ensemble de bidons autour de la Terre, finalement sur la même orbite, grosso modo, que Gagarine en 61. On est un demi-siècle plus tard. Au lieu de cela, et avec un budget moins important, on était capable d'aller s'installer sur la Lune et d'y travailler. Vous voyez, c'est ça la conquête, il faut avancer.
Alors d'y travailler, vous écrivez dans vos nombreux ouvrages, et notamment dans le dernier, La conquête spatiale en question, chez Elitis, vous écrivez « Tôt ou tard, un développement économique de la Lune verra le jour, car le régolithe lunaire, à sa surface, renferme un certain nombre d'éléments et de molécules dont l'exploitation s'avérera utile et rentable. Non seulement de l'oxygène, du silicium, du titane, mais aussi de l'hélium 3. En gros, pour faire simple, si demain, mais on fait de la science-fiction, si on utilisait donc l'argent des bidons qui tournent dans l'espace pour désigner l'ISS, pour tout simplement faire une exploitation, une colonisation de la Lune, on pourrait créer de l'énergie pour notre planète, la Terre.
Je le pense et beaucoup le pensent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces bidons qui tournent autour de la Terre, on pourrait avoir les mêmes bidons équivalents qui soient posés à la surface de la Lune, qui permettent à l'homme d'y vivre et d'y travailler en permanence, en le relayant de la même manière qu'on le fait, et donc d'extraire l'hélium-3, qui est une molécule particulière qu'on ne trouve pas sur Terre. et d'extraire cet hélium 3, et par fission, cet hélium 3 doit produire de l'énergie. Et il faudrait travailler aussi dans ce sens. Et avec une tonne et demie, deux tonnes d'hélium 3 annuellement, on serait capable de produire l'énergie qu'on consomme annuellement sur Terre aujourd'hui, donc ce qui est considérable. Et l'hélium 3, il y en a tellement dans le régolithe qui recouvre la Lune.
Le régolithe, qu'est-ce que c'est exactement, Patrick?
Ce qu'il y a à la surface de la Lune, c'est une espèce de poussière, de structure, un petit peu comme la Terre meuble, vous voyez, qui est à la surface de la Lune, et là-dedans, il y a de l'hélium-3, et avec des ressources, non pas infinies, mais quasi infinies, c'est-à-dire des milliers de tonnes.
Donc c'est une question politique pour vous, c'est pas seulement de la science-fiction, c'est une question de choix, d'arbitrage.
Même philosophique, parce que là, on rentre dans notre considération, mais je pense sincèrement que si nous avons évolué comme ceci depuis un siècle, c'est-à-dire la belle époque qu'on a connue, vous et moi, et beaucoup d'autres, bien sûr, c'est-à-dire de ce développement des technologies, de ce qui est à notre service, des robots, de l'industrialisation telle qu'on l'a conçue, puis toujours plus de richesses, etc. Le fondement de tout cela, c'est l'énergie. Et c'est la découverte du pétrole et le fait qu'on ait pu extraire l'énergie du pétrole. Et donc, les gens qui ont ce pétrole, depuis maintenant un siècle et demi, ont le pouvoir sur la planète. D'accord ? Beaucoup d'Américains, d'ailleurs, vous l'avez remarqué. Et donc, à partir de là, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on exploite, à ce qu'on découvre d'autres sources d'énergie. Donc, bien sûr, ils ne font rien pour qu'on aille sur la Lune, c'est évident. Ils préfèrent tirer jusqu'au dernier cent de l'énergie fossile qui se trouve à l'intérieur de la surface de la Terre, donc le pétrole notamment. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il faudrait un pouvoir politique et un État suffisamment puissant et indépendant des pouvoirs de l'argent, comme disent nos amis communistes. Georges Marchais n'est plus là, mais enfin, je dois tout à fait reprendre mes arguments, ce qui me désole un peu, mais enfin, c'est ainsi. Et donc, il faudrait imaginer qu'on soit capable de s'abstraire de ces pouvoirs industriels, de l'argent, de tout ce qui fait fonctionner notre monde aujourd'hui, pour dire, ben, on va quand même sur la Lune, on va essayer de faire la fission de l'hélium 3, et on va voir si ça produit quelque chose.
C'est ça pour vous aujourd'hui qui est la principale raison de l'abandon des programmes habités vers la Lune ou tout simplement vers l'espace?
La principale raison, c'est qu'il n'y a plus d'enjeux politiques. Ce que je pense, c'est que ce qui va se produire, vous voyez, la Chine, elle, a des problèmes énergétiques évidents. Elle n'a pas de pétrole, ou très peu, enfin, je ne vois pas. C'est pour ça que la Chine, depuis 30-50 ans, essaye de mettre la main sur toute source de pétrole qui existe dans le monde, ou politiquement, ou etc. Parce que, pour elle, c'est une question de survie. Aujourd'hui, on s'extasie devant les millions, puis les milliards de Chinois qui travaillent, qui produisent, etc. Mais de toute façon, sans énergie, ils ne peuvent rien produire. Sans pétrole, évidemment, ils ont beaucoup de charbon. Enfin, le charbon, c'est pas évident d'ouvrir une usine n'importe où et d'amener le charbon et tout, le pétrole ou le gaz. Bon. Donc, ces gens-là, pour eux, l'énergie, c'est vital. Et les Chinois ont affiché clairement leur objectif lunaire dans leur conquête spatiale habitée.
Et ils avancent, effectivement.
Ils avancent tranquillement, mais ils avancent. Le jour où les Chinois seront prêts à aller sur la Lune, soyez persuadés qu'à ce moment-là, il y aura à nouveau un enjeu politique. Et à ce moment-là, les Américains iront, la veille au soir, poser le pied sur la Lune, s'y installer et extraire l'hélium 3. C'est quelque chose d'évident. Donc, c'est un petit peu malheureux, mais on avancera encore sur des contingences politiques de lutte, de pouvoir, etc. Mais c'est ce qui nous fait avancer aussi.
Est-ce que vous en étiez conscient? Vous êtes en train de nous dire, quand même, Patrick Baudry, que votre aventure à vous, 1985, Discovery, 8 jours dans l'espace, en réalité, n'a été rendue possible que parce que deux superpuissances, en gros les États-Unis et l'Union soviétique, se livraient à une guerre froide depuis des années et que c'était une opportunité politique de vous y envoyer. C'est tout.
Absolument, absolument. Il y a deux choses. Il y a
Votre rêve a donc été réalisé par la réelle politique.
Absolument. Il y a ce dans quoi vous vous trouvez pour réaliser votre rêve personnel. Moi, finalement, je préfère encore que ce soit la politique qui m'ait fait aller dans l'espace plutôt que vos impôts. Aujourd'hui, ceux qui sont à bord des bidons qui naviguent autour de la Terre, cette ISS, ils sont grâce à nos impôts, point. Et on ne voit toujours pas à quoi ça sert, entre parenthèses. Donc là, il y a d'autres questions à se poser. Mais pour reprendre votre argumentaire, tout à fait, à l'époque, j'en étais pas conscient, bien sûr. J'étais beaucoup plus naïf et moins instruit qu'aujourd'hui. Mais réellement, c'est le contexte politique qui a fait que les Américains ont développé ce qu'on appelle la navette en français, qui est l'orbiteur. Pourquoi? Parce que c'était une lutte de pouvoir et de suprématie technologique entre l'Union soviétique et les États-Unis. Moi, je me souviens très bien, le 12 avril 1981, premier vol de la navette, Columbia, nous étions, Jean-Loup Chrétien et moi-même, à la Cité des Étoiles, en train de s'entraîner. Et c'était vraiment extraordinaire de voir la présentation faite par les soviétiques à la télévision et dans les différents médias soviétiques, qui étaient assez uniformes d'ailleurs, de cet événement majeur quand même. Parce que c'est la première fois qu'un avion est parti dans l'espace. La navette, c'est un avion.
Vous voyez, c'est surprenant.
Technologiquement, c'est un engin absolument fabuleux. Et les soviétiques ne présentaient ça que comme une arme de guerre, une arme de destruction, point, une arme militaire. Point. Et il est vrai qu'une des motivations des Américains à travers la navette était l'observation militaire. Et le Pentagone participait à cette époque au programme navette. Il s'est retiré du programme navette, le Pentagone, le budget de la défense américain, lorsqu'il y a eu l'accident de Challenger en janvier 1986. À partir de ce moment-là, ils sont sortis puisqu'ils ont compris que c'était un truc qui marchait plus ou moins bien, qui était très dangereux, puis finalement qui coûtait très cher. Mais était partie prenante. Et les Russes, pendant ce temps, développaient leur propre navette, Buran, qui a volé très peu de temps après, de manière tout à fait automatique d'ailleurs, et ça a été complètement abandonné, ça coûtait tellement cher, ça finit de les mettre en faillite, ce qui a permis finalement de faire tomber le mur. Hein. C'était une faillite économique.
La faillite de l'Union soviétique, oui. Alors vous avez pendant plus d'un an travaillé à la fameuse Cité des Étoiles, 81-82, et puis vous partez rejoindre le corps des astronautes de la NASA. Qui était le plus développé à l'époque, au début des années 80, Patrick Baudry? Est-ce que c'était l'Union soviétique ou les États-Unis? Puisque vous avez eu le privilège de travailler avec les deux.
Alors, ça nous rend très, très humbles, parce que en Union soviétique, chez les Russes, il y avait une technologie qui semblait infiniment moins développée que celle des Américains, ou même celle qu'on développait à l'époque. À l'époque, j'étais pilote d'essai, je m'occupais du Mirage 2000, du futur Mirage 2000. Et donc, une technologie quand même très avancée. Et quand on a découvert avec Jean-Loup à la Cité des Étoiles, les maquettes, les simulateurs de Salyut 7, qui était la station qu'on devait rejoindre, et Soyuz T, qui était le vaisseau spatial qu'on utilisait pour la rejoindre, tout d'abord, on s'est dit, bon, là, ils nous montrent des choses comme ça. Ils vont nous montrer les vrais après. Quoi. Hein. Vraiment, c'était frappant.
À ce point-là.
C'était plus près du sous-marin que du futur Mirage 2000. Et puis, mais ceci dit, on admirait tellement ces gens-là et ils étaient tellement ouverts. Peu à peu, ils nous ont expliqué la manière de voir, on a compris. Et c'est vraiment une approche différente, une approche vraiment pleine d'intelligence et de bon sens. Voyez, c'est-à-dire qu'ils ont, à cette époque, ils compensaient leur manque ou leur retard technologique, notamment en matière informatique, par plus d'intelligence, plus d'ingéniosité pour résoudre des problèmes. Et ils avaient une expérience spatiale extraordinaire, équivalente à celle des Américains. Ils n'avaient pas été sur la Lune, mais ils étaient sur le point d'y aller quand les Américains ont posé le pied et ils ont envoyé des vaisseaux automatiques sur la Lune. Donc vraiment, c'était admirable ce qu'ils faisaient avec des moyens qui étaient vraiment différents. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour Ariane. Quand elle décolle, notre fusée Ariane européenne, quand elle décolle, il y a un moment où une fusée sur le pas de tir est portée par un ensemble de bras de soutien qui l'alimentent jusqu'à la dernière seconde, etc. Quand vous allumez les moteurs à un certain stade poussent plus que le poids de la fusée et la fusée donc commence à s'élever. Mais entre le moment où elle commence à s'élever et le moment d'avant où il n'y a pas encore assez de poussée pour qu'elle s'élève, elle est toujours retenue et prise et soutenue par ses bras. Et donc, il faut calculer d'une manière extrêmement fine ce moment précis pour tout séparer, à la microseconde près, pratiquement, tous ces bras. Donc, nous, on le fait avec des capteurs, des calculs, des logiciels, des ordinateurs, tout ce que vous voulez, et ça marche. Les Russes, eux, leurs Zimurka, ils lancèrent à la taille, par une espèce d'anneau, si vous voulez. Au bout de cet anneau, il y a un bras articulé avec des contrepoids. Je schématise, quand la fusée commence à pousser plus que son poids, elle s'allège. Et à ce moment précis où elle ne pèse plus rien sur ce support, le support bascule, parce que c'est les contrepoids qui attirent tout, d'une manière absolument symétrique et coordonnée. Et voilà. Donc ils ont résolu un problème grâce à la gravité terrestre, tout simple, vous voyez. Alors que nous, on résout exactement le même problème avec une puissance de calcul, de la techno, etc. Donc il y a toujours plusieurs approches et il faut toujours regarder les autres avec beaucoup d'humilité.
Alors, vous parlez avec beaucoup d'admiration, de complicité de ces astronautes scientifiques russes. Bon, allez, ça fait 27 ans. Vous pouvez nous le dire maintenant, Patrick Baudry, est-ce que, comme le titrait le journal du dimanche en 1985, vous avez été un espion soviétique?
J'adore cette question. Merci de me l'avoir posée. C'est vrai que lorsque je me suis d'abord entraîné avec un équipage et on préparait un vol sur Challenger.
Ouais.
Challenger, qui était une des navettes.
C'était supposé être le premier vol franco-américain.
Tout à fait. Et puis, pour des raisons purement technique, la navette avait beaucoup de problèmes à cette époque. C'était vraiment très, très difficile de la mettre en œuvre. Toujours est-il que Challenger a été ramenée dans le hangar, le VIB, où elle est conditionnée, etc. Et c'est la seule fois, d'ailleurs, dans l'histoire de l'astronautique américaine où un engin spatial prêt à partir a été vraiment ramené au hangar, si vous voulez. Et là, la NASA a redistribué un peu les cartes. J'ai continué mon entraînement avec un autre équipage pour voler sur une autre navette qui était Discovery, sur laquelle j'ai volé en juin, donc quelques mois après. Et quand Challenger est sorti de hangar et a décollé, elle a explosé. Donc finalement, c'était une bonne affaire que je vole sur Discovery. Bon, ça s'appelle la chance, il faut toujours en avoir dans la vie. Et là, j'en ai eu. Toujours est-il qu'au moment où la navette a été ramenée au hangar, le JDD, effectivement, journal du dimanche, en première page, sous-entendait ou disait que j'étais un espion soviétique. C'est pour ça que les Américains avaient annulé ce vol. Alors, ça fait beaucoup de... Disons, pour vous, c'est passé inaperçu, bien sûr, mais en interne, entre les Américains, les Français, moi, etc., c'était une période extrêmement compliquée pendant un mois. Et finalement, ce sont les Américains qui m'ont sorti d'affaire, le FBI qui en était avec Jean-Luc Chrétien en Union soviétique. L'ambassade américaine à Moscou envoyait toutes les semaines un rapport aux États-Unis sur nos activités, ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils lisaient dans la presse et tout. Et donc les Américains, eux, savaient très bien que je n'étais pas un espion soviétique. Les Français ne le savaient pas encore, parce qu'on n'avait pas travaillé de manière aussi rigoureuse, peu importe. Alors ça a été une période très dure. Bon, après, bon, finalement, je suis parti, il n'y a plus eu de problème, mais ça n'a pas été facile. Et ce qui fait que quand je suis arrivé aux États-Unis pour m'entraîner comme astronaute, un petit peu avant cet épisode, si vous voulez, il est vrai qu'aux États-Unis, c'est un peuple libre, démocrate, pas comme l'Union soviétique de l'époque. Et autant il y a eu un consensus pour faire voler un Français en Union soviétique, et donc on s'est entraîné avec Jean-Loup, a volé, bon, c'était parfait, vraiment une entente parfaite. Autant aux États-Unis, quand nous sommes arrivés pour nous entraîner, il y avait une partie de l'opinion américaine qui ne voyait pas d'un bon œil qu'un non-américain utilise un vaisseau spatial des États-Unis d'Amérique payé par le contribuable américain. Et quand en plus ce non-américain était français, et qui rentrait d'Union soviétique, où il avait été formé comme cosmonaute, pour certains Américains, vous voyez, c'était pas aussi facile.
Vous voyez que la politique est partout, y compris dans les rampes de lancement
partout
de la NASA. Vous avez demandé à entendre, quelque chose qui va nous rappeler des bons souvenirs. En 1968, les Beatles, avec George Harrison, chantaient « While My Guitar Gently Weeps ».
I look at the world and
Patrick Baudry, vous évoquiez tout à l'heure ce que vous ressentiez hein, quand vous étiez dans l'espace au cours de cette presque semaine complète, il y a 27 ans, à bord de Discovery. Est-ce qu'on a peur quand on est comme
non,
ça
jamais,
dans l'espace ?
Jamais en fait, on n'a pas le temps, puis ce n'est pas le sujet du jour.
Et, très rationnel hein, quand même,
oui,
on sent le scientifique.
C'est-à-dire, personnellement, ça paraît un peu bête peut-être de dire comme ça, je n'ai pas accès à la peur.
C'est-à-dire
je n'ai jamais eu peur, je n'ai pas peur.
Bon, comment
donc,
vous n'avez jamais eu peur?
Non, pratiquement pas.
En pilotant?
Mais j'en suis conscient.
Dans des conditions extrêmes?
Étant donné les métiers que j'ai exercés, pilote de chasse, pilote d'essai, astronaute, j'en suis conscient. Et donc, je fonctionne en faisant très attention, parce que la peur, c'est un... Bon, ça peut être un handicap, hein, pour certains, quand on devient panique. C'est aussi un garde-fou qui est très très important, qui intervient dans votre raisonnement et dans vos décisions. Donc quand vous n'êtes pas, disons, très sensible à la peur, il faut le savoir de manière à réguler un peu différemment les choses. Et donc dans l'espace, en ce qui me concerne, ça faisait, on a été sélectionné avec Jean-Luc Chrétien en 79, j'ai volé en 85, vous voyez, ça a écoulé presque 6 ans, où je n'attendais que ça, où je n'ai vécu, travaillé, dormi et tout, que pour ça. Donc, et j'ai eu un certain nombre d'annulations de reports de tir, parce qu'on ne partait pas forcément à l'heure.
13,
à l'heure
je crois, sur Discovery.
Ouais, ça a été Discovery, Challenger, tout ça, c'était vraiment bon. Donc, quand vous êtes
couché... À aucun moment, pardonnez-moi de vous couper, à aucun moment vous vous dites, mais tout ça peut exploser, c'est quand même le 13e report de tir, ça se trouve, on va partir en miettes.
Oui, mais vous n'y pouvez rien, donc quel est l'intérêt de vous occuper de ça?
C'est pas faux, la peur c'est l'imagination, il s'agit de chasser l'imagination, merci.
Ah, complètement, mais il ne faut pas avoir d'imagination là-dessus, vous travaillez avec des équipes qui sont des gens fabuleux, vous faites confiance à ces gens-là d'une manière absolue, donc vous n'allez pas revenir à chaque fois sur ce qui peut exploser, etc. Vous partez, et en plus c'est binaire, donc vous arrivez là-haut ou vous restez en route, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Alors, est-ce que je peux vous poser une autre question que celle de la peur? C'est celle que Khrouchtchev a posée à Gagarine. Mmh. Ah, vous la connaissez celle-là? Avez-vous vu Dieu là-haut?
Alors Dieu, oui c'est vrai, c'est une question extrêmement importante et intéressante. Et Dieu, on ne le trouve pas en allant là-haut. On le trouve, je pense, en soi. Et tous mes amis astronautes notamment, parce que si je disais ça des cosmonautes russes, je n'aurais cité personne, mais c'est un peu la même chose tout de même, mais qui étaient très croyants avant de partir. Notamment, il y a des gens comme Jim Irvine qui a été sur la Lune, un des 12 qui ont été sur la Lune. Jim était extrêmement croyant, et sur la Lune, il est devenu encore plus croyant. Et quand il est revenu sur Terre après son vol... Il est devenu une espèce de missionnaire. Il passait le reste de sa vie à chercher les restes de l'Arche de Noé sur le mont Ararat. Enfin, disons, pour lui, Dieu, c'était... Là-haut, c'est devenu quelque chose d'encore plus important et réel qu'avant. Mais ceux qui sont agnostiques ou athées avant, ils le restent.
Et vous êtes-il dans quel cas de figure?
Ben moi, je suis de culture chrétienne catholique, donc j'ai cru à Dieu dans une certaine époque de ma vie, mais c'est passé. Et là-haut, il y a surtout une évidence, c'est celle que je disais tout à l'heure.
On est tout
c'est
petit.
Qu'on est dans un univers où on prend conscience de ce que notre Terre n'existe pas.
Quoi. Vous parlez des autres cosmonautes, Patrick Baudry. Est-ce qu'on sait que certains d'entre eux ont eu des dépressions, des moments de solitude, de grandes difficultés et de grandes nostalgies d'avoir été dans l'espace et d'avoir vu tout cela? Est-ce que vous avez connu ces états?
Non, j'ai eu la chance de ne pas connaître ça. Ce qu'il faut comprendre pour ceux dont vous parlez, c'est qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Quand vous rentrez, bien sûr, il y a une décompression. Et là, si à ce moment-là, vous avez beaucoup, beaucoup de sollicitations, de problèmes familiaux, professionnels, etc., ça peut amener une dépression. C'est ce qui est arrivé à certains. Moi, j'ai eu la chance de pas du tout être confronté à tous ces problèmes, finalement. Et après, de trouver un nouveau rêve. L'Europe a décidé le programme Hermès, donc une navette, un vaisseau spatial pour envoyer un Européen dans l'espace. Et je me suis complètement investi dans ce projet, dans ce programme. Et donc, aussitôt, je suis parti sur autre chose, si vous voulez. Et je pensais sincèrement, dans les années 80, que l'on s'installerait sur la Lune, grosso modo, en l'an 2000, et qu'on serait sur Mars en 2010. Vous voyez. Donc, je suis parti sur d'autres rêves, sur d'autres objectifs, et dans les meilleures conditions. Donc, j'ai eu beaucoup de chance.
Vous citiez Einstein tout à l'heure, Patrick Baudry. Je voudrais vous faire réagir à cette phrase, qui est d'Einstein également, et qui disait « La Terre est le berceau de l'humanité ». Mais on ne passe pas sa vie dans un berceau.
Oui, alors cette phrase qui est Tsiolkovsky en fait, qui est l'inventeur de l'espace, ce russe, et Einstein l'a reprise, c'est vrai. Cette phrase, elle renferme tous nos fantasmes.
Hein. Nos fantasmes ou nos rêves?
Et nos rêves aussi. Nous sommes nés sur Terre, nous sommes une espèce qui est née sur Terre, qui évolue sur Terre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'existence qui demeure toujours dans son berceau. La Terre n'est que notre berceau, elle n'est pas destinée à être fatalement notre tombe.
Est-ce que l'espace est une issue pour la survie de notre espèce?
Oh, je le pense sincèrement, mais posons le problème un petit peu différemment. L'espace et surtout l'avancée de nos connaissances peut être une issue pour notre survie. Et l'espace fait partie de l'avancée de nos connaissances, des frontières qu'on sera amené à transcender. Et pourquoi? Parce qu'on voit bien que faire vivre 7 milliards d'individus sur une planète comme la nôtre, et demain 10 ou peut-être 12, 15 milliards si on ne fait rien, on sera confronté à des problèmes de plus en plus difficiles à résoudre. Et ces problèmes, on peut espérer, on peut croire que notre savoir-faire nous permettra de les résoudre.
Alors ça, vous le dites, vous, avec votre expérience, des scientifiques, certains le disent également. Comment le faire comprendre aux politiques?
C'est difficile, parce que d'abord, est-ce que les politiques sont aptes à comprendre quelque chose d'important?
En même temps, c'est eux qui prennent les décisions.
Oui, mais pas pour... il n'y a aucun examen de contrôle qu'ils passent qui permette d'évaluer leur capacité à comprendre des problèmes importants. Donc, non, je crois que c'est purement humain, qu'on soit politique ou pas, mais c'est vrai que les politiques sont censés nous diriger.
Alors, j'ai posé ma question autrement. Patrick Baudry, au début des années 80, vous me disiez « Ah, bah, je pensais qu'en 2000, on serait sur la Lune et en 2010, sur Mars. Mmh. » Je me souviens qu'à l'époque... on lisait un livre qui s'appelait 2001, l'Odyssée de l'espace, d'Arthur C. Clarke, qui était un film de Stanley Kubrick, et on lisait la suite qui s'appelait 2010, Odyssée 2. Aujourd'hui, en 2012, on est où dans, 50 ans?
Je pense sincèrement que, toujours impossible de dire ce qu'on sera dans 50 ans, mais néanmoins, je suis convaincu qu'on sera installé sur la Lune on est installé dans des parties de la Terre plus ou moins difficiles d'accès, qu'on exploita les ressources lunaires, parce qu'on en a besoin, et la Lune est à 400 000 km de la Terre, quoi. 40 000 km/h, c'est 10 heures. Quoi.
C'est 10 heures de route, c'est pas long.
Sur le périph', on peut rester une heure. Non, il faut bien prendre conscience de ce que l'espace est à 9 minutes. Nous, quand on part au bout d'une fusée, en 9 minutes, on est dans l'espace. Donc, on sera ailleurs dans 50 ans, sur la Lune certainement, on aura été sur Mars, j'en suis convaincu, mais beaucoup d'autres choses encore plus importantes se seront déroulées.
À retrouver dans ce petit livre qui s'appelle « La conquête spatiale en question » paru aux éditions Elitis. Merci beaucoup Patrick Baudry.
Merci
à dans
beaucoup,
50 ans.
François. Merci.